Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Tout le monde en classe, retour obligatoire dès ce matin de la maternelle au collège, mais pour 2 semaines seulement, est-ce vraiment utile ? Oui, et tout d'abord sur le plan social et psychologique, vous l'entendrez dès le début de ce journal.
La lutte contre le réchauffement climatique. Inscrite dans la Constitution, la création d'un crime d'écocide, ce sont les principales propositions de la Convention citoyenne à approuver par référendum.
9 mois de travaux remis hier à la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, un moment historique pour les 150 citoyens tirés au sort. À la une encore, la piste terroriste retenue dans l'attaque au couteau qui a fait 3 morts à Reading, à l'ouest de Londres, et puis un sommet par visioconférence aujourd'hui entre les dirigeants chinois et les Européens qui veulent protéger notamment leurs entreprises fragilisées par la pandémie.
Et puis dans 10 minutes environ, Catherine, on va revenir sur l'affaire Fillon. Pourquoi se pose la question des pressions politiques ? On posera cette question à Didier Rebu, il est professeur de droit à l'université Panthéon Assas Paris 2.
Les parents sont appelés à avoir confiance dans l'éducation nationale. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a lancé cet appel hier alors que les écoliers et les collégiens doivent tous retourner à l'école ce matin. C'est obligatoire après 6 semaines de classe en dents de scie et plus de 2 mois de cours à la maison. Le protocole sanitaire a été assoupli, fini les distanciations à la maternelle et au primaire. Au collège, il faut désormais respecter 1 mètre latéral, sinon c'est masque obligatoire. Mais à quoi sert de repartir en cours pour 2 semaines seulement avant les vacances d'été. Intérêt pédagogique, certes, rappelle Jean-Michel Blanquer, mais aussi et surtout social et psychologique. Le reportage en Gironde d'Yvan Planteil.
Emma attend ce jour depuis plusieurs semaines, car en plus du retour des élèves, c'est surtout celui de ses amis.
Comme mes copines, c'est mes meilleures copines, ça me fait beaucoup de bien.
À côté d'Emma, sa maman, Florence Champroux, selon elle, même pour 10 jours de cours, il fallait faire revenir les enfants à l'école. En tout cas, elle n'a pas hésité à remettre Emma dès le début.
Elle est en CP, c'est une classe importante, donc elle a besoin de que tous les acquis soient là pour qu'après les enseignements puissent se poursuivre. Et même si c'est pour jouer un petit peu la fin de l'année, que ça sera plus détente, mais au moins ils seront ensemble avec les copains. Pour leur vie sociale, c'est mieux.
Pour la vie sociale, oui, mais pas pour la distanciation physique, d'après Laurent Haye, le professeur d'Emma. Il enseigne à l'école élémentaire Michelet de Villeneuve-d'Ornon, près de Bordeaux. Pour lui, ce retour des élèves va surtout casser les bons gestes que les enfants commençaient tout juste à intégrer.
Ça risque d'être difficile à comprendre pour les enfants, parce qu'effectivement, on leur dira dans la classe, vous restez éloignés le plus possible les uns des autres, mais dans la cour, vous pouvez jouer ensemble. C'est pas très cohérent, c'est compliqué.
Il regrette aussi que le ministère de l'Éducation n'ait pas fait venir des personnels de sécurité civile, des personnels hospitaliers par exemple, pour conseiller les établissements sur tous ces gestes barrières à remettre en place.
Et alors que le protocole sanitaire s'assouplit dans les écoles et les collèges, les entreprises, elles aussi, espèrent voir leurs contraintes s'alléger. Le gouvernement y travaille en concertation avec les partenaires sociaux. De nouvelles consignes devraient être annoncées dans les jours qui viennent pour faciliter le retour physique sur le lieu de travail. C'est ce qu'espère en tout cas Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
S'il y a moins de contraintes physiques, puisque le sujet est là, on anticipe le fait que ça va commencer à devenir un peu plus massif qu'aujourd'hui, parce que notamment dans des entreprises qui sont dans des locaux très grands, type Tour de la Défense, il y avait une impossibilité matérielle de faire rentrer les gens. Tandis que là, on pourra le faire. Donc je pense que ça va être un retour assez massif. Étant entendu tout de même qu'on conserve un sujet, là, qui n'a rien à voir avec le protocole sanitaire, c'est celui des écoles, parce que ces écoles sont censées rouvrir partout. D'abord, on entend que ce ne serait pas vraiment le cas tout de suite. Et la deuxième chose, c'est que le 4 juillet, les gens sont en vacances. Et que donc, il y a un sujet de solution de garde, parce que certains se disent à juste titre encore, on a les enfants chez les grands-parents, c'est peut-être pas très prudent, etc. Donc, la reprise, elle va aussi être influencée par la capacité des gens à s'organiser en prévision des vacances scolaires qui tombent le 4 juillet. On se dirige en tout cas vers quelque chose d'un peu hybride. Les gens viennent, ils sont mi-télétravail, mi-présents sur l'entreprise. Et ça, c'est le plus important, en fait, de retisser le lien avec l'entreprise même si les gens ne reviennent pas à plein temps dans leur activité.
Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, il répondait à Catherine Pétillon. Les EHPAD, eux, continuent leur lent déconfinement. À partir d'aujourd'hui, les directeurs d'établissements doivent présenter un plan de retour progressif à la normale qui concerne uniquement ceux qui n'ont plus de cas de Covid, avec le retour donc au plus vite des visites des familles sans rendez-vous et l'autorisation de sortie des résidents. Le plaisir retrouvé d'un film sur écran géant après des mois de vidéos sur une tablette ou sur un ordinateur à la maison, les salles de cinéma rouvrent aujourd'hui. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé un protocole assoupli pour faciliter la vie des spectateurs et des exploitants de salles. La jauge des 50% maximum est abandonnée. Il faudra laisser un fauteuil de libre quand on s'assoit près d'inconnus, mais il sera possible d'aller voir un film en groupe, en famille ou entre amis. On y revient dans le journal de 7h30.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La Convention citoyenne pour le climat a rendu ses travaux hier à la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne après 9 mois de travaux.
Et 149 propositions ont été détaillées pour réduire les gaz à effet de serre. Cette convention amène également deux avancées potentielles majeures. Les citoyens proposent un référendum pour modifier l'article 1er de la Constitution afin de préserver l'environnement et la biodiversité. Ils en proposent un autre pour reconnaître le crime d'écocide, de crime donc contre l'environnement. Cela pourrait empêcher d'emblée le lancement de projets polluants ou détruisant la nature. Grégoire, l'un des citoyens de cette convention, parle d'un moment historique.
Je suis content, je suis super fier. On a produit quelque chose de fantastique. 600 pages de propositions ambitieuses, concrètes, techniques, mais acceptables. Le fruit d'un consensus entre 150 citoyens de divers horizons. Moi, je suis vraiment fier.
Qu'est-ce qu'il faut se passer maintenant pour que votre bonheur soit complet? Parce que, bon, 600 pages, beaucoup de propositions, mais il faut qu'elles vivent après.
Il faut qu'elles vivent, mais on va les faire vivre. On va les faire vivre à 150 et à plus que ça, peut-être à 65 millions aussi. L'idée, c'est que tout le monde se l'approprie, c'est que les politiques l'appliquent, les mettent en œuvre. Et nous, on sera là pour les accompagner ou pour taper du poing sur la table si c'est pas fait. Mais bon... Je suis confiant aujourd'hui. Après, il faudra voir dans une semaine ce que nous propose le président. Après, je suis pas naïf, hein. Tout ne passera pas tout de suite, tout ne passera pas tout court. Mais après, encore une fois, si tout le monde s'approprie ce travail, on a quelques mois devant nous, quelques années devant nous, il faudra avoir ce travail dans la tête un peu tout le temps. En fait, c'est la fin de la convention, mais pas la fin des 150. On a monté une association qui s'appelle Les 150, et avec cette association, on va suivre nos mesures. On va les défendre, on laissera personne parler en notre nom, et on sera là pour accompagner l'exécutif au besoin, accompagner les politiques et la société civile, mais aussi derrière leur épaule le jour où ils voudront peut-être réécrire certaines lignes. On n'en lâchera plus. Maintenant, effectivement, on a été plongé dedans, mais on s'y plaît. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on laisse d'autres personnes porter notre voix.
Grégoire, l'un des citoyens de cette convention au micro de Véronique Rebérotte. Et le MEDEF, lui, se dit agréablement surpris par le sérieux du travail mené par les 150 citoyens. Mais l'organisation patronale estime que certaines de leurs propositions sont extrêmes et de déplorer encore le manque de chiffrage des mesures dévoilées. Le préfet de Guyane renforce le couvre-feu dans la ville spatiale de Kourou, commune du littoral guyanais la plus touchée en nombre par le Covid-19 par habitant. Près d'1,5% de la population est contaminée à Kourou. L'hypothèse d'un reconfinement de la Guyane devra être réexaminée si les signes d'une accélération de l'épidémie se confirment, a prévenu Matignon hier. Matignon qui prévoit un renforcement des capacités sanitaires sur ce territoire français voisin du Brésil. Le Brésil qui déplore lui désormais plus de 50 000 morts de la Covid-19. Plus d'1 million de personnes ont été contaminées. Au Royaume-Uni, l'enquête se poursuit pour essayer de comprendre le mobile de l'homme qui a attaqué plusieurs personnes au couteau dans un parc de Reading à l'ouest de Londres. 3 personnes sont mortes sur place, 3 autres ont été grièvement blessées. L'affaire est désormais considérée comme une attaque terroriste par la police compte tenu du profil du suspect au Tsoufi.
L'assaillant n'est pas complètement inconnu des services de police. Il a purgé une peine de prison pour un délit mineur, mais l'année dernière, la sécurité intérieure britannique s'est penchée sur son cas après avoir reçu des informations selon lesquelles il s'apprêtait à partir à l'étranger et potentiellement à commettre des actes terroristes. Finalement, sans preuve de risque immédiat ou réel à ce moment-là, le MI5 n'avait pas donné suite et il ne faisait pas l'objet d'une surveillance ou d'une attention particulière de la part de la police. Samedi soir, 3 personnes sont pourtant mortes sous ses coups, le Premier ministre Boris Johnson.
Si des leçons doivent être tirées sur la façon dont on gère ce genre de cas, la façon dont on gère les événements conduisant à ce genre de cas, nous les tirerons et nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires.
Les médias britanniques révèlent le nom du suspect, Khairisa Adala, et publient des photos du jeune homme. C'est un réfugié libyen de 25 ans, présent sur le territoire britannique depuis plusieurs années. Il vivait à Reading, où un appartement a été perquisitionné très peu de temps après les faits. Les enquêteurs assurent que samedi, il a agi seul et qu'il ne recherche personne d'autre dans cette affaire.
Otsoufi à Londres pour France Culture. Une réunion au sommet et en visioconférence aujourd'hui entre l'Union européenne et la Chine sur fond de profondes divergences de la lutte contre la Covid-19 à la situation démocratique à Hong Kong, en passant par la question commerciale. Un accord de libre-échange est en préparation depuis des années, mais sur ce plan, l'Union européenne semble désormais décidée à mieux se protéger, Louise Baudet.
Face à la Chine, ne plus être naïf. L'injonction n'est pas nouvelle. Voilà plus d'un an que l'Europe voit le géant asiatique comme un rival systémique. Mais des mots aux actes, il y a un gouffre que le livre blanc présenté la semaine dernière à Bruxelles tente de combler. Objectif, protéger les entreprises européennes de la concurrence déloyale de groupes chinois dopés aux subventions de Pékin, avec un secteur clé, les marchés publics européens. Pas question que cette manne de 2000 milliards d'euros annuels finisse dans l'escarcelle d'entreprises chinoises, à l'heure où la crise impose de relancer les économies du vieux continent. Les entreprises étrangères subventionnées par des États tiers seront placées sous surveillance, éventuellement mises à l'amende, voire interdites d'accès aux appels d'offres. Par ailleurs, le rachat d'entreprises européennes par des groupes étrangers pourra être bloqué, alors que la crise post-Covid aiguise les appétits chinois vis-à-vis d'entreprises fragilisées. Cet arsenal sera opérationnel l'an prochain, espèrent les plus optimistes, qui rêvent surtout d'un monde où la Chine accepterait d'ouvrir ses propres marchés, réciprocité dont Pékin ne veut pas entendre parler.
La Corée du Nord s'apprête à lancer des millions de tracts sur son voisin du Sud pour répliquer à des envois de tracts hostiles sur le régime de Pyongyang. Des tracts seront envoyés donc sur la Corée du Sud à l'aide de milliers de ballons, a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne. Et puis en France, des milliers de personnes sont sorties dans la rue hier soir pour la fête de la musique. Malgré le coronavirus, le ministre de la Culture, Franck Riester, avait décidé de maintenir la fête, mais il avait appelé à respecter les mesures barrières. Sur ce point, il n'a pas forcément été entendu. À Paris, par exemple, où certains endroits se sont transformés en clubsters en puissance, comprenez, en foyer épidémique en puissance. Des centaines de personnes se sont par exemple agglutinées autour de la rotonde à Stalingrad, où l'on pouvait entendre de la disco house avec des fêtards en plein air qui ne respectaient pas forcément les règles sanitaires, sans masque ni distanciation physique. Le temps de ce lundi 22 juin, encore instable. Le soleil sera contrarié par des nuages et des averses. Les températures sont comprises ce matin entre 6 et 15 degrés dans la moitié nord de l'Hexagone, 12 à 21 au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 21 et 26 degrés en général du nord au sud et jusqu'à 34 localement dans le Var.